une émission proposée et animée par Christine Baron.
Après notre printemps si particulier, on n'a pas hésité à céder à toutes les tentations de l'été. Enfin, pas toutes les tentations, hein, juste les tentations culturelles. Et le lancement de la saison d'Un été au Havre a donné le ton, avec un drôle d'oiseau comme porte-parole, un drôle d'oiseau emmitouflé dans un caban, le regard perdu au loin, les mains dans les poches, comme s'il attendait tranquillement le retour d'un navire, le coucher du soleil, le rayon vert. C'est Monsieur Goéland, une statue plantée place du Vieux Marché au Havre et déclinée sur toutes les affiches. Une très jolie aquarelle esquissée par l'auteur, Stéphane Balkenol, pour illustrer le thème proposé à tous les artistes invités cette année. Un thème lancé comme une promesse de bonheur. Regardez la mer. Alors oui, on a regardé la mer et on a ouvert grand les yeux sur tout ce que la vie culturelle nous offrait à nouveau avec bonheur. Alors de quoi va-t-on parler dans la quatrième de couverture du mois d'août ? Eh bien, on fera d'abord le tour des bons moments qui ont éclairé notre mois de juillet. On ira ensuite au musée des pêcheries à Fécamp et on tendra notre micro à Marie-Hélène Desjardins, conservateur en chef du musée, pour découvrir sa quatrième de couverture de l'exposition « L'invention d'Étretat ». On poursuivra ensuite notre déambulation dans une exposition plus lointaine, celle du musée de Beni Abbès, qu'Idriss, le jeune berger berbère, découvre à Uri sous la plume de Michel Tournier dans son grand roman de 85, La Goutte d'or. Et c'est Jeanne qui ouvrira cette parenthèse littéraire. Enfin, on cherchera quelques dates pour remplir notre agenda du mois d'août. Alors ouvrons grand nos yeux et nos oreilles, ouvrons nos micros à la quatrième de couverture du mois d'août pour sa 10e édition. C'est vrai qu'on a ouvert grand nos yeux en juillet. On a regardé la mer, la campagne adoucie par le soleil d'été, les nuages dans le ciel bleu, et puis tous les programmes dévoilés finalement les uns après les autres. Le coup d'envoi a été donné par la cathédrale de lumière à Rouen, qui a lancé son calendrier d'été et offert à tous les curieux le spectacle nocturne qui illuminera jusqu'en septembre la façade de Notre-Dame. Un spectacle gratuit et en plein air, donc compatible avec la crise sanitaire. Les spectateurs les plus audacieux sont retournés dans les salles de cinéma, eux. Et sans les blockbusters américains, le cinéma français a repris des couleurs et deux films ont été salués par la critique. Deux films tournés ici, dans le Pays de Caux justement. Deux films qui ont su capter la beauté de nos paysages de falaises et de campagne. Il y a eu « L'été 85 » de François Ozon, dont on a beaucoup parlé en juillet. Et puis un film plus discret, « Green Boys », réalisé par Ariane Doublé. Un nouveau documentaire que la cinéaste installée ici a ajouté à la liste de ceux qu'elle a tourné dans la région de son cœur. Après les terriens sur l'éclipse à Étretat en 99, les sucriers de Colville, elle signe avec Green Boys une belle histoire d'amitié entre Luca et un jeune migrant guinéen. Une rencontre bucolique et tendre dans des paysages filmés avec beaucoup de poésie au soleil de l'été qui prolonge son film précédent, Les réfugiés de Saint-Jourin. Et si vous avez loupé ce film en salle, vous pourrez le retrouver en VOD sur la plupart des plateformes légales. Ces paysages de champs de lin avec vue sur la mer ne sont pas si éloignés de ceux qu'on retrouve sur les toiles, les vrais, pas les toiles des écrans de cinéma, les toiles exposées dans nos musées. Et puisqu'on est en vacances, les musées redoublent d'ingéniosité pour offrir aux enfants de nombreuses activités quand ils ne peuvent ni jouer au foot, ni construire des cabanes dans la nature comme Luca et Alassane, les héros d'Ariane Doublé. Et pour leur proposer aussi des passerelles originales avec les œuvres et la culture. C'est aussi la volonté du projet national Partir en livre, la grande fête du livre jeunesse qui a eu lieu en juillet sur tout le territoire, et a inspiré à la maison Henri IV de Saint-Valery-en-Caux un atelier pour enfants dans le cadre de l'exposition qui est à voir jusqu'au 26 août, les livres animés pour les enfants. Un atelier numérique pour créer un livre avec Emma Giulani. C'était le 8 juillet. Parce que la culture numérique modifie de plus en plus notre approche des œuvres. Bien sûr, elle séduit en priorité les jeunes qui la pratiquent avec dextérité et l'exposition organisée au Tetris au Havre en est la preuve. La jeune artiste Alex Verest expose ses tableaux numériques peints au pixel en alliant avec talent les nouvelles technologies et l'inspiration picturale de la Renaissance. Avec des images qui s'animent sous nos yeux. Du coup, on ne sait plus si on regarde un jeu vidéo, un portrait hanté ou un tableau de Van Eyck qui sortirait de son cadre après 6 siècles d'immobilité. Génial ou effrayant, à vous de voir, jusqu'au 6 septembre. En fin juillet, a sonné l'ouverture de Normandie impressionniste et l'abbaye du Miège a dévoilé une étonnante exposition de photos où le numérique, bien que discret, a eu les honneurs des cimaises. Avec un titre magnifique, « Les flots écoulés ne reviennent pas à la source ». Et on a beaucoup apprécié d'être guidé par le commissaire d'exposition en personne, la talentueuse Victoria Jonathan, dans des salles presque vides, pour une visite privée en direct.
La Liang Yuliang reprend, donc il y a eu énormément de dépictions traditionnelles de la source aux fleurs de péché. Et là, il livre une vision également dystopique de ce récit. On voit bien les lettrés qui sont habillés à la façon des Song, mais derrière eux, la nature est complètement détruite. Et voilà, donc c'est un paysage de ruines.
Donc, entre rappel constant de la culture traditionnelle chinoise, ici les lettrés sont en tenue impériale, et le regard acéré sur la chaîne actuelle, Victoria Jonathan parlait d'un paysage de ruines, les 13 photographes rivalisent d'inventivité et de perfection esthétique pour rendre hommage au passé et dénoncer la folie destructrice du modernisme.
En fait, c'est une œuvre issue d'une autre série de Sritaka. C'est une série sur les grottes célestes. Donc les grottes célestes, ce sont des lieux de passage entre le monde des vivants et le monde des morts, qui sont très précisément situés dans des montagnes à travers la Chine et beaucoup dans le bassin du fleuve jaune. Et ici, il s'agit d'une grotte céleste qui est également un tombeau, Han. Et quand on a envoyé des photos du lieu à Swetaka, et qu'on lui a dit qu'ici, il s'agissait du tombeau d'Agnès Sorel, il a tout de suite voulu proposer cette œuvre à cet emplacement.
Il fait beau, en fait.
Voilà. Donc là, c'est un lieu de passage entre la vie et la mort.
Le lien entre tous les photographes, c'est évidemment le regard qu'ils portent sur la rivière en Chine, un thème hérité de la tradition picturale chinoise qui permet à chacun d'explorer ce paysage naturel codifié par les poètes, les peintres ou les calligraphes, un lieu symbolique qui célèbre l'harmonie entre l'homme et le monde ou au contraire ses ruptures.
Pour ce projet spécifique qui s'appelle Simple Song, il est reparti dans le sud-ouest de la Chine, dans le Yunnan, qui est une des régions les plus reculées du pays, où vivent énormément de minorités ethniques. Et c'est aussi une des régions qui est parmi les premières à avoir été pénétrée par les Occidentaux au moment des guerres de l'opium, donc au milieu du 19e siècle. Et c'est là également que sont allés les premiers photographes de la Chine. La photographie a été introduite en Chine au moment des guerres de l'opium, donc dans les années 1850-1860, par des hommes qui étaient des voyageurs explorateurs, qui accompagnaient des missionnaires, qui accompagnaient des missions militaires. Et qui ont donné à voir à l'Occident les premières images de la Chine, puisque jusque-là, la Chine était un pays absolument inconnu et interdit. Hormis quelques missions jésuites au XVIIe et XVIIIe siècle, on connaissait très peu ce pays. Et donc Luo Dan s'inspire des premières photographies de la Chine et de ces régions reculées de la Chine. Donc il utilise un procédé qui date du XIXe siècle, qui est le collodion sur plaque humide. Et il s'intéresse également à cette population du Yunnan qui a été évangélisée, donc qui sont tous chrétiens au XIXe siècle. Et selon lui, ils vivent dans une forme de spiritualité qui est de moins en moins, enfin, qui est de plus en plus rare dans la Chine ultra-urbaine, ultra-moderne d'aujourd'hui.
Si Luo Dan reprend un procédé photographique oublié, dans la salle d'exposition voisine, Yang Yongliang présente, lui, une image numérique géante, animée, où tous les éléments naturels du paysage de montagne ont été remplacés par ceux du modernisme. Des forêts, des pylônes électriques, les prairies, des bretelles d'autoroute, les rochers, des buildings, un réquisitoire violent mais poétique qui balance sans cesse entre passé traditionnel et culture numérique. Et tout ça au milieu des ruines séculaires de l'abbaye du Miège, tout près d'un autre fleuve, la Seine, qui s'écoule à deux pas. Une autre exposition du festival propose aux curieux un regard original sur le passé. C'est toujours au bord de l'eau, mais cette fois, c'est au bord de la mer, pour nous raconter la naissance d'Étretat. C'est l'invention d'Étretat par Eugène Le Poitevin au musée des pêcheries à Fécamp. Et on a eu la chance de rencontrer sa directrice, Marie-Hélène Desjardins, qui nous a livré sa quatrième de couverture. Une rencontre masquée comme il se doit.
Eugène Le Poitevin est un peintre qui mérite d'être plus connu. Il est de la génération romantique et c'est grâce aux œuvres tout à fait magnifiques qu'il nous laisse sur Étretat que Étretat est devenu un site un peu incontournable de la modernité picturale et que si les peintres impressionnistes se sont intéressés ensuite dans la génération suivante au site d'Étretat, c'est parce que des peintres tels que Le Poitevin avait en fait préparé le terrain pour attirer les artistes sur ce site exceptionnel.
La tonalité générale de l'exposition que vous avez bien sûr construite pour cet événement, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ?
Alors en fait, cette exposition montre comment ce petit bourg de pêcheurs, finalement, avec la vogue des bains de mer, est devenu tout à fait important. Et des artistes comme Le Poitevin, qui s'intéressent au départ au site en général, vont inventer, avec d'autres comme Jeanne Boudin par exemple, un nouveau motif pictural qui est celui des bains de mer, et vont, en s'installant sur place, en recevant beaucoup d'artistes sur place, finalement créer les conditions pour faire d'Étretat un site absolument focal de la modernité picturale.
D'accord. Et pour les gens qui ne connaîtraient ni votre beau musée, ni Jeanne Le Poitevin, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme invitation à venir découvrir ?
Alors, ici, on va trouver des œuvres tout à fait magnifiques d'Eugène Le Poitevin et de ses amis. Ce qui est particulier chez Eugène Le Poitevin, c'est que ça n'est pas du tout un peintre solitaire. C'est au contraire un peintre qui a beaucoup d'amis. Et il est arrivé à Étretat dans le sillage d'un autre peintre qui est bien connu, qui est Eugène Isabey. Et au début de sa carrière, il va recevoir beaucoup d'amis à Étretat. Et en fin de carrière, il va recevoir chez lui Courbet. Et Gustave Courbet va peindre dans la maison même d'Étretat en 1869 la fameuse série des vagues qui va faire un peu scandale mais aussi avoir beaucoup de succès au salon de 1870. Et en fait, on voit bien que entre l'arrivée avec Isabey dans les années 1830 jusque à Courbet qui vient dans les années 1869, c'est-à-dire presque au moment où Le Poitevin va mourir, on voit bien que les conditions, de la manière dont les peintres appréhendent le paysage va se transformer complètement. D'un paysage qui est en fait un support romantique, on passe vraiment à quelque chose que les historiens de l'art appellent le pleinérisme, c'est-à-dire un goût pour la peinture de plein air, pour les personnages qui vivent en plein air comme les pêcheurs, et tout ça va préparer en fait la génération impressionniste qui s'annonce.
Merci madame. Et à Fécamp comme à Jumièges, la culture numérique a ouvert le bal. Avant de plonger avec Eugène Le Poitevin dans la plage d'Étretat, le visiteur est accueilli par l'œuvre d'Elina Broterus, vidéaste contemporaine finlandaise, avec une plongée au sens propre dans une vaste étendue d'eau à différentes heures du jour, Une projection en continu, en boucle, de 52 minutes, pour s'immerger dans cet espace emblématique, la plage, qui a fait les beaux jours des impressionnistes. Une proposition esthétique qui interroge une fois de plus le spectateur sur le sens d'une exposition, sur le regard qu'il porte sur ce qu'un musée lui montre. Regardez quoi ? Regardez la mer, comme Monsieur Goéland ? Regardez un film, des images, des photos ? Regardez une œuvre d'art ou un témoignage du passé ? Eh bien, ces questions sur le regard, un écrivain remarquable l'a posé brillamment dans son roman sur l'image publié en 1985. C'est Michel Tournier, l'auteur de « La goutte d'or ». Eh bien, c'est le moment d'ouvrir notre parenthèse littéraire. Que pourrait-on dire sur la quatrième de couverture de ce roman sans le résumer ? Qu'un jeune berger berbère se fait photographier avec son troupeau dans l'oasis où il vit au Sahara par un couple d'Européens qui repart aussitôt. Alors pour retrouver sa photo, Idriss décide de partir pour la France en digne héritier de ses ancêtres nomades. Ce sera un long et dur chemin vers Paris et ses désillusions. Un récit aux multiples facettes qui le mènera à ce qui le libérera de ses chaînes, la découverte de la calligraphie. Ça, c'est la quatrième de couverture, mais ouvrons le roman. C'est tout au début, Idriss s'arrête à Beni Abbès et découvre le musée saharien et le voilà embarqué dans une visite guidée au milieu de touristes européens. C'est à Jeanne de lire.
Idriss écoutait avec étonnement. Ses règles de vie quotidiennes, il les connaissait pour les avoir toujours observées, mais comme spontanément et sans les avoir jamais entendues formuler. De les entendre de la bouche d'un Français, confondu dans un groupe de touristes à cheveux blancs, lui donnait une sorte de vertige. Il avait l'impression qu'on l'arrachait à lui-même, comme si son âme avait soudain quitté son corps et l'observait de l'extérieur avec stupeur. Le guide souleva la gaieté générale en concluant. Et la saine hiérarchie doit toujours être respectée. Les meilleurs morceaux vont aux hommes, les moins bons aux femmes et aux enfants. Enfin, on fit station devant une armoire vitrée où s'étalaient des bijoux et des amulettes. Inutile, mesdames et messieurs, de chercher ici. La tête de chien, la silhouette de chameau, le scarabée et moins encore le bonhomme et la bonne femme. Non, les bijoux sahariens ne représentent rien. Ce sont des formes abstraites, géométriques, ayant valeur de signe, non d'image. Voici en argent massif les croix, des croissants, des étoiles, des rosaces. Voici des agrafes, des boucles, des anneaux en cornes de chèvre. Les bracelets de cheville ou chevillères doivent empêcher les démons de la terre de remonter le long des jambes et d'envahir tout le corps. Les bijoux les moins précieux ne sont que des coquillages. Les plus précieux sont en or, mais vous n'en verrez pas dans ce musée. Sans doute les a-t-on volés depuis longtemps. Lorsque les visiteurs commencèrent à s'éloigner, Idriss s'approcha de l'armoire. Ses bijoux d'argent, il les avait vus sur sa mère, sur ses tantes, sur d'autres femmes de Tabel Bala. Des photos montraient des visages couverts de peintures faciales, rituelles, sur lesquelles Idriss aurait presque pu mettre des prénoms familiers. Enfin, comme il s'écartait de la vitre, il vit apparaître un reflet, une tête aux cheveux noirs exubérants, à la face mince, vulnérable, inquiète, lui-même présent sous cette forme évanescente dans ce Sahara empaillé.
Merci Jeanne. Merci pour ce passage où le jeune berger a l'impression d'être une bête de foire perdue au milieu des touristes goguenards à qui on offre un Sahara empaillé. Et comme le reflet qu'Idriss perçoit de lui-même dans la vitrine, tout le roman de Tournier décline avec talent les mirages des représentations, photos, moulages, mannequins, films, où Idriss ne se reconnaîtra jamais. Une manière pour Tournier de nous obliger à réfléchir au sens des images qu'on regarde, un peu comme les photographes chinois de Jumièges. Mais pourquoi avoir choisi une musique d'Ennio Morricone et pourquoi cette BO du film Le Cinéma Paradiso et plus précisément ici, La Visite du Cinéma ? Bien parce que dans La Goutte d'Or, Tournier entraîne Idriss sur les plateaux de cinéma et des plateaux célèbres, les studios Francoeur, transformés depuis 1998 en école de cinéma et pas n'importe quelle école, la fameuse Fémis. toujours dans le 18e, toujours rue Francoeur, sous la même enseigne des studios Pathé. Mais après le Sahara et le 18e arrondissement, revenons en Normandie, car curieusement, ce roman sur une exposition coloniale n'est pas si éloigné du festival. Et comment ? Bah, tout simplement parce que son président, cette année, c'est Éric Orsenna, l'auteur du prix Goncourt 88, l'exposition coloniale. Alors justement, à propos d'exposition, que va-t-on voir au mois d'août ? Vite, vite, ouvrons nos agendas. Si beaucoup de festivals ont été annulés, on a eu la chance, nous en Normandie, de pouvoir découvrir les trésors exposés de Cherbourg à Dieppe dans le festival Normandie Impressionniste avec ce beau titre fédérateur, La couleur au jour le jour. Et après Jumièges et Fécamp, on poursuivra en août nos visites au jour le jour ou la nuit et on ira au Havre pour explorer ces nuits électriques que nous propose le MUMA. Ou comment le progrès technique, la lumière artificielle, a changé le regard des peintres. Si la Normandie a réussi à maintenir son festival, un autre, plus ancien, aurait fêté cette année ses 51 ans. Toujours autour du regard et de la photographie. Ce sont les célèbres rencontres d'Arles qui ont été annulées à cause de la crise sanitaire, évidemment. Et quel est l'amoureux des images qui avait créé ce festival en 69 ? Ben oui, c'est Michel Tournier, avec Lucien Clergue, le photographe. Alors sans les rencontres d'Arles, on pourra toujours piocher dans la longue liste des films qui ont été inspirés par la photographie. Le plus récent, Le photographe, la jolie romance indienne du réalisateur de la Lunchbox, ou le Blue Up d'Antonioni en 66, ou le célèbre Fenêtre sur cour d'Hitchcock, le beau documentaire sur Gilles Caron, L'histoire d'un regard, sorti l'an dernier, ou celui sur Salgado, Le sel de la terre de Wim Wenders en 2014. De quoi se régaler et être heureux, parce que c'est si bon de retrouver ce qu'on aime, les expositions, les films, les photographies, les tableaux. Et puisque c'est si bon, quittons-nous avec ce vieil air de 1947, remis au goût du jour par Thomas Dutronc, avec Diana Krall, la chanteuse de jazz, et Iggy Pop, l'icône punk. Et oui, il n'y a pas que dans les musées qu'on mélange les genres, peinture renaissance et photo numérique, calligraphie traditionnelle et vidéo, passé et présent. On peut tout faire en musique aussi, parce que Darling, c'est si bon.
C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good.
C'est si bon. So I say it to you, like the French people do. Because it's oh so good.
Every word, every sigh, every kiss, dear,
leads to only one thought,
and it's this, dear.
It's so good, nothing else can be played. Just your slightest embrace.
And if you only would,
if you only would,
be my own,
be my own,
for the rest of my day,
for the rest of my day,
I will whisper this phrase.
My darling, c'est si bon.
Thank you.
C'est inouï ce qu'elle a pour séduire. Sans parler de ce que je ne peux pas dire.
C'est si bon.
C'est si bon.
Quand je la tiens dans mes bras.
Quand je la tiens dans mes bras.
De me dire que tu sais.
C'est à moi pour de bon.
C'est si bon. Et si nous nous aimons.
Cherchez pas la raison.
C'est parce que c'est si bon.
Because it's oh so good.
C'est parce que c'est si bon.
Merci Stéphane, merci Jeanne et rendez-vous début septembre. Et d'ici là, bon été, parce que nous, on retourne regarder la mer.
C'était la quatrième de couverture, une émission proposée et animée par Christine Barou.